Je vous propose d'écouter d'abord Pascal Barbier sur la parentalité et recherche, s'il vous plaît. Je te laisse la parole. Merci.
Merci. Bonjour. D'abord, je retire ma casquette de communicant pour vous dire, en tant qu'organisateur, qu'il y a un pot ce soir qui permettra de boire pour compenser un petit peu toutes les détresses qu'on a fabriquées au cours de la journée. Donc voilà, vous y êtes cordialement invités, il y aura de l'alcool. Je viens donc ici présenter une recherche qui vous a été en partie présentée par Bernard Fuselier tout à l'heure, puisque j'ai travaillé avec Bernard. Il m'a plutôt poussé, proposé de travailler la base, qui m'a permis d'obtenir aujourd'hui un poste, ce dont je le remercie. C'était une enquête qui était fondée sur donc, des entretiens, dont l'objectif était d'appréhender des éléments sur la situation des chercheurs aujourd'hui, et plutôt les jeunes chercheurs, leur trajectoire familiale, privée, professionnelle, et puis, plus exactement encore, une étude qui visait à comprendre dans quelle mesure la vie privée affectait la manière de voir et de faire son travail, tout simplement, et en retour, potentiellement, la carrière qu'on pouvait observer dans le milieu professionnel. Donc c'était une recherche qui était fondée, avant toute chose, sur ce que Bernard appelle donc l'articulation travail-famille chez les chercheurs, dans quelle mesure la vie privée façonne la vie professionnelle lorsque l'on est chercheur. Alors ça semblait être une dimension importante, alors que souvent cachée dans les régulations de la recherche scientifique. C'est caché alors que dans les faits, objectivement, la manière dont les carrières se font aujourd'hui, c'est-à-dire un degré d'investissement extrêmement avancé, une mobilité attendue extrêmement forte, tous ces aspects qui conditionnent aujourd'hui l'obtention d'un poste de chercheur permanent sont directement contraires, d'une certaine manière, avec le déploiement d'une vie privée qui pourrait être jugée satisfaisante. C'était ce paradoxe-là qu'on cherchait donc à appréhender à partir d'une population particulière que sont, on doit les présenter quand même en quelques minutes, ce sont des chargés de recherche donc du FNRS qui, contrairement au vocabulaire français, ne correspondent pas à des postes permanents mais à des post-docs assez bien rémunérés de 3 ans, potentiellement renouvelables une année. Des post-docs qui sont très sélectifs, très enviables, très enviés et qui constituent souvent, en tout cas pour une bonne partie des candidats, une des dernières positions postdoctorales avant l'obtention d'un poste de chercheur qualifié, donc qui cette fois-ci renvoie au même poste de chargé de recherche du CNRS pardon, en France. Donc ce ne sont pas des chercheurs titulaires permanents, mais des chercheurs en bonne posture, assez bien lotis, assez bien payés et qui ont eu des carrières qui jusqu'ici se sont bien déployées. Un tout petit mot sur le paysage belge dont on parle et dont on pourrait parler aujourd'hui, puisqu'on a la présence de plusieurs Belges ici. La Belgique est particulière parce qu'elle ne souffre pas des difficultés qui sont les nôtres en France, d'un grand partage qui n'a pas été évoqué encore jusqu'ici dans l'expérience de du statut de jeune chercheur aujourd'hui, un grand partage entre Paris et la province d'une part, et normalien et non normalien d'autre part, puisqu'il faut bien en parler un moment. Ce n'est pas la même chose d'être jeune chercheur normalien que d'être jeune chercheur à l'EHESS, par exemple. Donc c'est un pays où ce clivage n'existe pas. Il y a d'autres contraintes, il y a d'autres particularités, mais ce qui est important à rappeler dans la compréhension des situations de ces jeunes chercheurs. Alors ce que j'aimerais faire ici, c'est 2 choses. D'abord, revenir très rapidement sur la question qu'on a posée, présenter les coordonnées du problème pour aller vite. Et puis dans un deuxième temps, présenter finalement 3, ce qu'on a appelé formes d'interférence entre la vie privée et la vie professionnelle chez les chercheurs parents, qui, contrairement à ce que l'on peut imaginer, constituent une population importante de l'ensemble des jeunes chercheurs aujourd'hui, en tout cas en Belgique. C'est une population qui n'est pas rare, même si on a tendance à penser que la parentalité est contraire à l'expérience d'une thèse ou d'un post-doc. Donc les coordonnées du problème, d'une part, et de l'autre côté, des formes d'interférence, c'est-à-dire des effets réciproques de la parentalité et du travail d'une sphère sur l'autre, qui ont des effets finalement sur la manière dont le travail est fait et surtout est vécu. Premier aspect d'abord, tout simplement un mot sur la question que l'on a posée sur les coordonnées du problème qui nous a intéressés. Ce qui nous a intéressés, je le répète, c'est donc dans quelle mesure la vie privée a un effet sur la manière de voir et de faire son travail. Alors c'est une question qui est très classique finalement en sociologie. C'est une question, par exemple, qui est rattachée au champ de recherche portant sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Beaucoup de recherches se sont, par exemple, intéressées au rôle que peut avoir la vie parentale ou le fait d'être marié sur la carrière professionnelle. Et on découvre à ce sujet des inégalités très nettes entre les hommes et les femmes, formalisées avec des appellations comme le plafond de verre, Le fait d'avoir des enfants va limiter les perspectives de carrière des femmes ayant les positions les plus hautes dans la hiérarchie professionnelle. Pour celles qui ont les positions plus basses, c'est souvent une sortie de l'activité qui s'opère au moment de l'arrivée des enfants. Pour les hommes, au contraire, c'est ce que montrent par exemple François de Saint-Guy, Charles Gadea, Catherine Marie, les chercheurs qui se sont posés ces questions. Chez les hommes, la vie parentale, la parentalité, a tendance au contraire à booster la carrière. C'est un gage de sérieux, en tout cas chez les recruteurs. C'est un élément en tout cas qui constitue un accélérateur de la carrière des pères. Donc, il y a donc une différence radicale du point de vue de la carrière entre les hommes et les femmes lorsqu'un enfant arrive. Notre hypothèse était que ces effets ne portaient pas que sur la carrière et n'étaient pas seulement appréhendables avec des statistiques, c'est-à-dire objectivement, mais la parentalité pouvait aussi avoir des effets sur le vécu, tout simplement. Non pas sur le résultat, l'obtention d'un poste, d'une promotion, d'un temps partiel, etc., ce genre de choses, mais tout simplement sur la manière, le rôle que remplit le travail dans son existence. Le rapport au travail, donc, pour reprendre un vocabulaire de la sociologie du travail. Quel rôle joue la parentalité sur la manière dont on fait et voit son travail? Et il nous semblait que le cas des chercheurs était peut-être un des cas les plus représentatifs, en tout cas un cas où on pouvait voir un effet le plus fort de la parentalité sur la constitution du rapport au travail. C'est donc ce qu'on s'est posé. Pourquoi ce cas nous apparaissait fortement révélateur? Eh bien, tout simplement, au moins pour deux raisons. La première raison, ce sont les qualités du milieu professionnel qui est le nôtre. Il y a dans ces qualités du milieu professionnel de la recherche un ensemble d'éléments, quatre éléments, qui nous semblaient constituer un lieu de problème, en tout cas, un lieu de problème dans la conciliation entre travail et famille. Premier élément, on l'a dit et répété, c'est un ethos professionnel qui valorise l'engagement total, complet dans la recherche, soutenu cet engagement par le sentiment d'avoir une passion qui a été motivée par un sentiment d'avoir une vocation, autant de mots en sion qui invitent à travailler beaucoup et à ne pas compter son temps. Le deuxième élément qui est lié au précédent, c'est que c'est un milieu professionnel qui est fondé sur des valeurs liées au masculin, comme le rappelait Bernard tout à l'heure, le professeur est un homme. Et le professeur est un homme qui pouvait travailler beaucoup jusqu'ici parce que sa femme s'occupait des affaires domestiques. Et le milieu continue à reposer sur ce mode de fonctionnement, ce qui, à nos yeux, constitue un deuxième élément posant potentiellement problème pour les femmes et pour les hommes dans la conciliation travail-famille. Troisième élément qui est central toujours, c'est que c'est une activité, même si cela n'est pas vrai pour tout le monde, notamment pour les gens qui travaillent dans de vrais laboratoires avec de vrais tubes à essai, pas les sociologues donc, c'est une activité qu'on peut faire chez soi. Il y a donc une fusion potentielle entre les sphères de la vie, cela pouvant conduire à des tiraillements entre le temps qu'on alloue à la vie privée et le temps qu'on alloue au temps professionnel lorsqu'on travaille chez soi, par exemple. Et puis, quatrième aspect qui tient à l'organisation de notre milieu, c'est tout simplement ces développements récents, l'intensification du travail, les mesures de performance, les attentes de productivité, etc., qui potentiellement peuvent redoubler les attentes en termes d'engagement professionnel chez les chercheurs. Ça, c'est le premier élément qui nous semblait intéressant. C'est ce que Bernard a résumé tout à l'heure en parlant de « greedy institution », c'est-à-dire une institution qui est enviable, qu'on souhaite honorer, mais qui nous coûte énormément de temps. Et puis, il y en a un autre aspect qui constitue les coordonnées de notre problème, c'est tout simplement que la population qui nous a intéressés est dans une situation, du point de vue de la vie privée, un moment de l'existence où se développe aussi la vie familiale. 28 ans, 35 ans, moment où on veut des enfants, où la personne avec qui on est en veut, moment où on peut se marier, acheter un appartement, une maison, bref, développer des aspects de l'existence, une nouvelle forme de sociabilité qui est, elle aussi, gourmande. Autrement dit, on a ici tous les éléments pour constater un problème potentiellement, en tout cas, chez ces chercheurs, l'idée qu'il y a probablement un effet de la vie privée sur la manière dont on voit et on fait son travail. Et de fait, à partir des entretiens qu'on a réalisés donc, avec des chargés de recherche du FNRS, des hommes comme des femmes, des parents, des non-parents, mais notamment des parents, ce que l'on a constaté, c'est trois types d'effets réciproques de la vie parentale sur la vie professionnelle. Trois effets, trois types d'articulation, trois formes d'interférence dont je vais parler dans un deuxième temps maintenant. Je vais chercher d'abord à les présenter à chaque fois et puis ensuite à évoquer les conditions qui les conditionnent, donc les facteurs plutôt qui sont à l'origine de cette forme d'interférence? Qu'est-ce qui les explique? Qu'est-ce qui les favorise en partie? Même si on n'a à ce sujet pas d'éléments complètement solides à avancer, mais au moins des pistes de réflexion. Alors la première forme d'interférence qui s'observe entre parentalité et vie professionnelle, on l'a formalisée sous le terme de renforcement. Ça signifie tout simplement que la vie parentale, l'arrivée d'un enfant ou la présence d'enfant, vient renforcer le plaisir que l'on retire du fait de travailler comme chercheur. Alors que c'est apparemment inconciliable pour beaucoup, l'arrivée d'enfants renforce les satisfactions éprouvées vis-à-vis du travail. Cela est lié tout simplement au sentiment que l'on a une meilleure capacité de s'organiser dans son quotidien, on est structuré, on a un cadre, et aussi et surtout probablement parce qu'on a le sentiment d'être plus productif soudainement, d'être plus cadré, plus productif, plus professionnel, de ne plus perdre de temps dans les couloirs à discuter, de ne plus utiliser ces petits moments éparses et de les consacrer seulement à la recherche. Ça donne donc un sentiment élevé de satisfaction professionnelle chez ces chercheurs-là. En plus d'être jugé compatible donc avec la vie de chercheur, la parentalité est même vue comme quelque chose qui favorise l'accomplissement de la vie de chercheur. Alors quelles sont les conditions qui sont à la base de cette forme d'interférence? Quelles sont les qualités que l'on a observées chez les personnes qui témoignaient de ce type d'interférence? Eh bien, quatre qualités. La première qualité, c'est tout simplement que ce sont tous des individus qui profitent d'un cadre familial extrêmement soutenant, à la fois par les parents, les grands-parents, mais aussi par le conjoint, tout simplement, qui prend en charge les activités domestiques lorsque cela est nécessaire, par exemple un séjour à l'étranger, une mobilité, ou tout simplement, quand on est chercheur en biologie, des périodes prolongées au laboratoire le soir, par exemple. Deuxième facteur qui favorise cette forme d'interférence, c'est l'homogamie, le fait d'avoir un conjoint qui partage une activité professionnelle similaire ou proche. Similaire ou proche, ça signifie dans tous les cas une activité professionnelle qui connaît les mêmes contraintes, dans le sens où on peut travailler chez soi. Et de manière très pratique, ça signifie que lorsqu'on est en couple avec un enseignant, par exemple, l'enseignant va se remettre à travailler le soir après 21h lorsque les enfants sont couchés, moment où, en tant que chercheur, on pourra soi-même se remettre à travailler. Et donc, le sentiment de conciliation est heureux, relativement heureux. Troisième facteur, c'est des choses beaucoup plus matérielles. Un lieu de résidence qui est proche à la fois des lieux de garde des enfants et du lieu de travail. Donc on ne perd pas de temps dans les transports de manière tout à fait concrète. Et puis, un dernier aspect qui tient plus à la trajectoire de ces chercheurs cette fois-ci, ce sont des chercheurs qui témoignent d'un extrême attachement au travail de la recherche et au statut de chercheur et à l'institution qui le pourvoit, l'université. Tout simplement parce que lorsque l'on regarde leur trajectoire, ils ont tous eu aucune ou très peu de difficultés d'insertion, une thèse financée, un post-doc immédiatement après la thèse, une série de post-docs qui s'accélèrent. Ils ont aussi beaucoup eu d'indicateurs de réussite, des livres qui sont parus, des articles qui ont été promus et discutés, des séjours, des invitations à des colloques, bref, autant de feux verts qui poussent à travailler encore plus et qui invitent donc à faire corps avec l'institution qui est vue comme honorable. Deuxième forme d'interférence, c'est ce qu'on a appelé l'apaisement, c'est tout simplement que dans ce cas-là, la parentalité intervient à un moment où on prend ses distances par rapport à son travail parce qu'on sent que l'obtention d'un poste va être difficile, ou un poste de titulaire dans la recherche ou non. Quelque chose, en tout cas, du constat que la rentabilisation du diplôme va être difficile. Dans ce cas-là, eh bien, la parentalité vient apaiser les angoisses dans la mesure où ça procure, ce sont les chercheurs qui le disent, un sentiment de lucidité. On est lucide d'un coup d'un seul sur notre milieu professionnel, on prend ses distances, on se protège. Et une des manières de se protéger, c'est notamment d'envisager une reconversion. Autrement dit, on lève un petit peu la tête du guidon et on respire et on met cela sur le compte de l'enfant qui permet notamment de prendre du recul temporel. On n'a plus les moyens de s'engager autant qu'on le souhaitait dans la recherche. On a le sentiment d'être à nouveau normal, comme le disent les chercheurs, un sentiment de normalité. Ce sont des chercheurs qui, dans l'ensemble, ont, eux, présentent des trajectoires et des parcours beaucoup plus heurtés, qui, justement, n'ont pas ces feux verts, qui les invitent à travailler plus et qui, peut-être, leur procurent cette nécessaire lucidité dont ils parlent. Troisième effet, c'est vraiment un effet réciproque, c'est le plus intéressant probablement, même si c'est le moins surprenant, c'est un effet de recadrage. La parentalité vient recadrer l'investissement dans le travail, une capacité d'honorer à la fois ce que l'on souhaite faire dans le travail et ce que l'on souhaite faire dans la vie familiale. Alors ce sont des chercheurs qui, du coup, ont tout autant que les premiers une carrière qui est satisfaisante et heureuse. Ils ont envie de travailler, ils ont besoin, ils ont le sentiment que ça peut marcher. Ils ont dans le même temps envie de s'engager dans la vie familiale, c'est une dimension de leur existence qui est extrêmement importante. Mais cette double volonté de s'engager est contrariée par un problème, une déficience, une ressource qui n'est pas là. Par exemple, un enfant qui tombe souvent malade, un conjoint qui a une idée un peu traditionnelle de la division des rôles sexués, un domicile qui est loin de la crèche ou du travail et qui coûte en déplacement. Bref, quelque chose qui ne fonctionne pas, des parents qui ne sont pas là, qui crée donc un tiraillement, une ambivalence, c'est-à-dire tout simplement le sentiment que lorsque je donne du temps dans la vie familiale, je le prends au travail, et l'inverse est tout aussi vrai. Cela crée donc une insatisfaction dans les deux sphères que Bernard a présentées tout à l'heure sous la forme de l'ambivalence. On est ambivalent par rapport à tout, c'est l'expérience assez désagréable. Quelques mots de conclusion, donc, au total. C'est une recherche qui montre que chez les jeunes chercheurs, on doit prendre en sérieux ce qui a été appelé un filtre caché dans les carrières scientifiques, c'est-à-dire quelque chose que l'institution ne reconnaît pas, mais qui joue un rôle central, tout simplement, la vie privée, ses dimensions, sa taille, la volonté de s'y investir, etc. La vie privée constitue un filtre caché dans l'accès à des positions stables dans la recherche scientifique. C'est un filtre caché qui coûte beaucoup plus, bien sûr, aux femmes. Il y a un effet de genre qui est massif ici. Les personnes qui témoignent d'un tiraillement sont principalement des femmes, tout simplement. Mais quand on va un petit peu plus loin, c'est par exemple ce que font Bernard et Farah en ce moment en Belgique, lorsqu'ils regardent, par exemple, le sort des chercheurs qui ont obtenu un poste finalement de chercheur qualifié. Quand on regarde les femmes, par exemple, ce que l'on constate, c'est qu'à l'intérieur du groupe des femmes, il existe aussi une hétérogénéité très forte. On constate ces trois formes d'interférence, par exemple, ce qui montre l'importance, tout simplement, des conditions matérielles d'existence du chercheur pour comprendre son rapport au travail, sa carrière, etc. Autant d'aspects qui invitent à arrêter de regarder la recherche comme une pratique complètement idéale et regarder un petit peu les conditions matérielles de sa production. Merci.
Merci beaucoup, Pascal. Je propose qu'on va réserver les questions de fond pour la fin de la session. Mais si vous avez des questions de clarification... Aucune? Ok. Alors, on va procéder avec Paul Cornier de l'Université de Lausanne et IEP Bordeaux sur l'espace privé, espace caché, des questions épistémologiques autour de l'environnement privé des chercheurs.
Merci. Je me présente en quelques mots. Donc, je m'appelle Paul Cornier, je suis doctorant en troisième année à Sciences Po Bordeaux et à l'Université de Lausanne. Donc moi, je ne conduis pas du tout des recherches sur la situation des jeunes chercheurs. Moi, je travaille de manière très éloignée sur l'engagement révolutionnaire et les répressions des militants révolutionnaires dans les régimes autoritaires, et en particulier sur le cas de la Turquie. Donc ce que j'ai proposé ici, à côté de toutes ces enquêtes, ce sont sans doute des quelques réflexions qui vont paraître un peu naïves, mais qui sont liées plutôt à un retour d'expérience sur la situation privée du jeune chercheur en train de faire sa thèse et sur les impacts que sa vie privée a sur la constitution de sa recherche. Donc, parce que moi j'avais remarqué qu'il y avait déjà pas mal de recherches menées, sur la vie privée des acteurs, chez les psychologues, chez les sociologues, chez les historiens. On se souvient de l'histoire, de la monumentale histoire de la vie privée que Philippe Ariès et Georges Duby avaient co-dirigé ensemble. Mais je me suis rendu compte que les chercheurs s'étaient rarement intéressés à leur propre vie privée. Est-ce que, pour paraphraser Sartre, on pourrait dire que la vie privée, c'est pour les autres, entre guillemets? Pourquoi est-ce que c'est pas un enjeu pour les chercheurs, comme l'a dit Bernard Fuselier tout à l'heure? Et donc, moi, je me confrontais, parallèlement à ça, à une expérience très concrète de jeune chercheur, qui était des questionnements sur mon terrain, sur mon rapport à mon enquête, et obligé de composer entre mon engagement professionnel et ma vie privée. Et donc je me suis plongé un peu dans la littérature réflexive sur la question, et j'ai été, rapidement déçu. Et ça allait de pair avec le fait que mon environnement professionnel, au sein de mes laboratoires, la question était relativement peu problématisée. Et donc j'avais l'impression, au début en tout cas, d'être le seul pour qui ça posait problème. Donc, je voudrais également clarifier un certain nombre de choses. Est-ce qu'on parle de vie privée, d'espace privé, d'environnement privé ? Le titre de mon intervention que j'avais proposé au départ pourrait entretenir un peu de flou, parce qu'il me semble que la question du choix des termes est intéressante, dans la mesure où je propose, disons de manière extrêmement modeste, mais pour essayer de complexifier un peu ce que je voudrais dire ici, de parler d'espace privé, espace et privé au pluriel, dans la mesure où vie privée me semblait à la fois un peu trop homogénéisant et... La notion d'espace privé au pluriel permettait de singulariser un certain nombre d'espaces. Est-ce qu'on parle de la vie de couple ? Est-ce qu'on parle des relations avec sa famille de manière générale ? Est-ce qu'on parle des relations avec ses amis qui peuvent avoir un impact sur la recherche, etc. Donc en fait, je souhaitais, dans cette perspective, inclure des espaces sociaux qui ne relèvent pas stricto sensu de l'espace professionnel, mais qui ont d'une manière ou d'une autre, en tout cas dans mon expérience sur laquelle je reviendrai, une influence sur lui. Et donc... Pour terminer un peu sur cette question d'introduction, je me suis demandé aussi, parce que la question se pose, quel intérêt est-ce qu'il peut y avoir à s'intéresser à cet espace privé du chercheur dans le cadre de son enquête et dans le cadre de son travail doctoral ? Alors, il ne s'agit pas évidemment de voyeurisme, on ne fait pas de la télé-réalité sur les chercheurs, même si ça pourrait être marrant, mais quoique, vu l'actualité, je ne sais pas. Il ne s'agit pas non plus de passer son temps à se regarder le nombril, à s'observer être, à travailler et chercher au détriment de l'enquête, c'est-à-dire d'être dans une sorte d'extériorité, une espèce de double distance, se regarder, enfin, avoir de la réflexivité sur son enquête, avoir une double réflexivité sur soi-même, se regarder en train d'enquêter. Dans ce cas-là, on n'en finit plus. Il ne s'agit pas non plus de constituer le questionnement privé à part, c'est-à-dire en dehors des autres conditionnements qui affectent le chercheur et sa recherche, mais de le constituer avec elle et non plus de l'occulter. Il ne s'agit pas de la surestimer en considérant que la trajectoire du chercheur serait surdéterminée par des expériences passées, plus ou moins enfouies ou refoulées, on pourrait d'ailleurs se demander lesquelles. Mais on pourrait m'objecter aussi que si c'est privé, alors pourquoi est-ce qu'on le rendrait public ? Que si le chercheur prétend à l'objectivité, à la réflexivité, pour autant, comment peut-on prétendre l'atteindre en cachant l'espace privé, ou plutôt en s'abstenant de le en évitant de le questionner ? Donc, moi, je propose ici, de manière plus modeste, de ne pas ignorer les déterminations, ou en tout cas, de moins la dialectique des effets entre l'espace privé, ou les espaces privés même, et la situation du chercheur en train de conduire sa recherche. Il s'agit donc de parvenir à constituer ces espaces privés du chercheur en questionnement épistémologique, et même, d'un point de vue méthodologique, à aider le doctorant, entre guillemets, à vivre correctement sa recherche. Donc, à en faire un questionnement réflexif à part entière et scientifiquement légitime. Donc je propose d'aborder cette question dans un questionnement en deux parties. D'abord sur quelque chose qui a été relativement traité, mais sur lequel je voudrais revenir, qui est la question des trajectoires biographiques et des choix de recherche qui sont opérés par les individus. Et ensuite, de la dialectique entre recherche et espace privé. Donc j'essaierai de discuter un certain nombre d'exemples pris dans des textes historiques, anthropologiques, sociologiques ou politologiques. Et puis, en essayant de présenter un certain nombre d'aspects de ma propre recherche. Donc ce texte-là poursuit un travail que j'ai entamé l'année dernière sur de réflexivité sur mon propre travail. Le premier travail, questionner les effets d'âge, de genre, de nationalité sur l'enquêteur dans le cadre de son enquête. Donc d'abord, donc, biographie et choix de recherche, l'espace privé est-il dans l'angle mort ? Puisque c'est ma discipline, de travaux de réflexivité sociologique ou anthropologique qui posent la question du rapport du chercheur, jeune ou moins jeune d'ailleurs, à son objet de recherche, à sa relation avec ses enquêtés, à sa relation avec son terrain, entre guillemets, de manière très générale, y compris dans des manuels, et qui incite donc à donner à voir ce que Pierre Bourdieu appelle le modus operandi de la recherche, c'est-à-dire la cuisine interne de la recherche en train de se faire. Il y a d'autres travaux qui sont plus spécialisés, et c'est en partie ceux sur lesquels on a beaucoup réfléchi ce matin, c'est ceux qui sont sur l'insertion des jeunes chercheurs dans leur structure de rattachement universitaire, sur leur perspective de carrière, leur mode de socialisation à l'espace académique, etc. Et éventuellement même sur les malaises qu'il y a dans toutes ces perspectives. Mais pour autant, le chercheur, et c'est ce que disait Bernard Fugier tout à l'heure, est-il au-dessus de tout ça ? Scientifique sans vie, sans espace privé, ou au contraire, l'espace privé, le refoulement du privé n'est-il pas la condition de l'accès à l'objectivité ? Ne rejoint-on pas ici, à mon avis, l'image de la pudeur, pour ne pas dire le monachisme, voire le sacerdoce scientifique du chercheur, non pas dans une tour d'ivoire, mais en tout cas étanche aux passions du monde et des hommes ? Pourquoi ce sujet est-il dès lors frappé d'indignité ? Pour autant, certains chercheurs, même des chercheurs très reconnus, ont réfléchi à cette question et ont permis de mieux comprendre dans certains de leurs ouvrages leur propre trajectoire et leur propre choix de recherche. Mais ils n'évoquent que sporadiquement, pour ne pas dire jamais, leur environnement privé qui reste souvent dans l'ombre, qui est considéré comme négligeable. Je pense d'abord, par exemple, pour ce qui concerne la dimension familiale, à Richard Hogarth, qui avait raconté son enfance dans des quartiers populaires de Londres, mais qui s'arrête dans son entrée dans l'enseignement supérieur. Il parle de sa famille, de son milieu social, il ne parle jamais de sa conjointe, hormis en passant, une fois qu'il a intégré le milieu universitaire. Pour ce qui concerne la dimension académique, Pierre Bourdieu a beaucoup réfléchi sur cette question, a publié même un essai de socio-analyse, mais il laisse complètement sa vie privée dans l'ombre, en considérant, par pudeur sans doute, que ça n'a pas lieu d'être, alors qu'on connaît l'importance de celle-ci dans sa trajectoire, dans ses choix de recherche et dans sa carrière académique, et notamment son projet de revenir dans son village natal pour faire de l'anthropologie, transposer son terrain kabyle dans son terrain basque d'enfance. Et donc, il est étonnant que l'auteur de l'illusion biographique s'illusionne lui-même ou tente de masquer ce qui permet de comprendre ses propres choix de recherche. Pour ce qui concerne la dimension politique, je pense en particulier par exemple à des gens comme Claude Fossé-Polliac ou à Gérard Mauger ou à Rémi Lefebvre qui ont travaillé sur les relations entre leurs choix de recherche et leur engagement politique, qui sont souvent liés. Et enfin, en ce qui concerne la dimension amicale, ou en tout cas les liens d'amitié et leurs relations à la recherche, je pensais très rapidement, en y réfléchissant, je ne l'ai pas fouillé de manière plus précise, par exemple à ce que dit Paul Venn de son amitié avec Michel Foucault dans le livre qu'il lui a consacré, et des échanges que ça a permis entre eux, puisqu'ils partageaient tout simplement le même bureau, dans la constitution réciproque de leurs recherches respectives. Donc toutes ces dimensions, je ne dis pas qu'il faut... disons, les exclure, les considérer comme négligeables dans la mesure où elles ne seraient pas suffisamment probantes, mais je pense qu'il faut à la fois les considérer ensemble et les entremêler, mais en allant même un peu plus loin. Puisque la situation est souvent entrevue, la question de la vie privée est souvent entrevue, mais jamais questionnée en tant que telle. Donc, ce qui m'amène à mon deuxième point sur les relations entre recherche et espace privé, et dans leur dialectique, puisque... En effet, peu de réflexions se sont penchées. Je parle d'un point de vue, non pas des enquêtes menées sur les jeunes chercheurs, mais du point de vue des travaux réflexifs sur la question dans le cours de l'enquête. Puisque peu de travaux se sont questionnés sur les relations sociales et les conditions de vie matérielles d'exercice de la recherche qui ne manquent pas d'influer sur celles-ci. On peut donc se demander, de manière toute simple, quelle est la place pour le privé dans la recherche en train de se faire. On peut, par exemple, se questionner de manière très simple, comme Pascal le faisait tout à l'heure grâce à son enquête, sur la question du statut marital quand on mène sa recherche. Est-on célibataire ou en couple? A-t-on des enfants ou non? Sur l'influence concrète de sa famille et de ses amis et des relations qu'ils entretiennent. J'y reviendrai. Ou enfin, tout simplement, sur sa situation matérielle. Où habite-t-on? A-t-on des revenus pendant sa recherche? Etc. Et donc, ces questions qui me semblent cruciales et que chaque chercheur se pose, ou en tout cas qui, quand il conduit sa recherche, est amené à arbitrer en fonction de l'influence de ces critères sur sa propre recherche, semblent relever du tabou, en tout cas de l'indicible, y compris dans le milieu académique. On mentionne rarement, ou en tout cas c'est peut-être moi qui suis extrêmement pudique vis-à-vis de mes directeurs de thèse, mais on leur dit rarement, quand on a des échanges avec eux, je peux pas trop faire ce déplacement parce que ce mois-ci, je suis un peu dans le rouge, ou c'est pas possible parce que je dois aller chercher les enfants à l'école à 17h, etc., etc. Et donc, ces choses qui sont, entre guillemets, tabous dans le milieu académique, je pense qu'il est important de s'y atteler et de les questionner. Donc, j'avais découpé ensuite en trois points, c'est cette question. D'abord, sur la vie de couple et les relations familiales. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais peut-être essayer d'argumenter d'un point de vue plus personnel sur, d'abord, les interférences positives que peut avoir ce milieu, ne serait-ce que d'un point de vue du soutien moral. On sait tous que pendant la thèse, il y a des grosses baisses de régime et qu'on est bien content d'avoir son conjoint, sa conjointe, ses parents et ses amis pour nous soutenir, éventuellement nous donner des ressources supplémentaires. Que ce soit des ressources matérielles ou des ressources sociales. Si on mène une enquête, par exemple, je ne sais pas, sur les notaires en France, et qu'on a un oncle qui est notaire, le simple fait de pouvoir avoir les premiers contacts via un réseau familial compte de manière importante dans la recherche, et ça relève pour moi, disons, de l'effet de la vie privée. Et ça permet aussi de développer des discussions, des formulations, des reformulations, des relectures. On voit dans toutes les thèses que tout le monde remercie ses parents d'avoir relu la thèse et d'avoir corrigé les fautes d'orthographe. Mais ça compte, n'empêche, parce que si on n'a pas de parents, pas de relecture. Et donc, ça rejoint ici la question de la trajectoire familiale, puisque on a aussi toutes les questions, disons, de facilité entre les habitus des parents transmis aux enfants qui nous conduisent plus ou moins facilement à aller vers la recherche, mais je mets ça de côté. Et puis, on peut penser aussi aux interférences négatives, les freins ou les résistances concernant le choix du sujet, voire concernant le choix de la discipline. T'es sûr que tu veux vraiment faire une thèse? Ça va te mener à quoi? Tu vas en faire quoi? Etc. Et puis, des négociations, une fois la thèse engagée, sur la question du terrain. Par exemple, moi, je travaille donc sur la Turquie, sur les mouvements révolutionnaires en Turquie, avec un certain nombre de, disons, de risques potentiels. Je travaille avec des gens qui sont accusés régulièrement de terrorisme, emprisonnés, etc. Quand vous expliquez ça à vos parents, ils sont pas ravis de vous voir partir sac à dos sur le dos pour aller en Turquie faire des entretiens. Donc toutes ces inquiétudes, toutes ces réticences, y compris avec votre conjoint, vous travaillez sur un terrain à l'étranger, vous lui annoncez que vous allez partir 6 mois sur le terrain à rencontrer les enquêtés, et ben ça oblige nécessairement, au sein de la vie de couple, au sein de la vie de famille, à négocier, à taire ou au contraire à valoriser certains aspects que l'on auxquels on ne pense pas nécessairement. Et donc ça implique aussi de s'organiser, puisque si on est absent pendant 6 mois, qu'on a des enfants, il faut s'organiser, etc., etc. Parfait. Donc je voulais juste préciser aussi quelque chose, c'est la question des difficultés qu'on a parfois à entretenir le dialogue entre son travail de chercheur et sa famille. On a souvent un certain nombre de malaises dans les discussions, parfois lié à un sentiment d'illégitimité de la famille par rapport, disons, à la discipline universitaire, aux connaissances universitaires en question qu'on est amené à évoquer dans la discussion, qui est parfois d'ailleurs tournée en dérision, et ou parfois d'un intérêt variable aussi. Au bout des années, aux premières années, on est absolument passionné par ce que vous faites, et au bout de la troisième année, on se rend compte que vous n'avez pas grand-chose de plus à dire, parce que sinon ça vous amène dans des considérations qui partent dans des trucs, et les conversations s'écourtent, et ça frustre tout le monde, ceux qui ont l'impression de ne rien comprendre, et vous qui avez l'impression de ne pas arriver à en parler avec votre entourage. Et c'est parfois assez embêtant, assez inquiétant. Alors que pourtant, parler de son travail avec des personnes qui ne sont pas spécialistes de son objet ou même de sa discipline, ça permet parfois de faire naître des questionnements nouveaux, d'en reformuler certains, ou de travailler tout simplement à rendre intelligible sa recherche. Je pense par exemple à Miyazaki qui avait publié un article sur la manière dont on rédige sa thèse et aux conséquences que ça a. Elle écrit, donc je la cite, « Ce n'est qu'après mon deuxième terrain et suite à une vive altercation avec des proches que j'ai remarqué que parler en exposant mes hypothèses et mes données, un peu comme pour un séminaire doctoral, mais de manière plus informelle, sans préparer mes notes, pouvait m'aider à écrire. » Donc on voit bien ici que la question des relations avec la famille est très importante, ou en tout cas pour la confiance en soi du chercheur et éventuellement même pour la conduite de la recherche. Et on pourrait même dire que parfois la recherche peut même carrément créer des espaces de vie privée. Il y a certains chercheurs qui ont carrément rencontré leurs conjoints sur leur terrain de recherche. Je pense par exemple à certains collègues anthropologues qui sont mariés avec leur informateur sur place. On peut aussi évoquer la question des amis qui fournissent un peu le même type de ressources et qui peuvent entraîner le même type de discussion. On peut revenir sur la question que j'évoquais avec Paul Venn, c'est-à-dire l'importance des amis de la recherche, où là on est à la fois avec des collègues et en même temps avec des gens qui peuvent être des amis dans l'espace privé, qu'on peut être amené à côtoyer en dehors et où avec lesquels les discussions vont être extrêmement productives. Et puis enfin, les amitiés qui sont liées avec les personnes que l'on rencontre sur le terrain. Si on fait une enquête de terrain, avec des personnes qui sont à la fois nos enquêtés et nos amis, avec toute la littérature réflexive que ça pose comme problème, qui revient sur cette question, qui peut éventuellement être un problème. Et donc, avant de terminer, je voulais évoquer le livre d'Éric Chauvier qui s'appelle Anthropologie. Alors, je suis assez loin de ces positionnements théoriques, mais il me semble qu'il donne là un certain nombre d'indications pour essayer d'articuler les deux, puisqu'il mène, disons, des petites recherches quasiment informelles dans son coin, mais il restitue dans le cadre de la restitution de l'enquête, dans le livre lui-même, les discussions avec sa compagne, avec ses amis, et des réflexions que ça lui inspire dans la manière de conduire son enquête. Et donc sur les conditions de vie matérielle, et après je vous promets j'arrête de parler, c'est la spécificité du jeune chercheur sur cette question qui moi m'interpellait, sur la question évidemment de la précarité qu'on vient d'exposer, donc j'y reviens pas, sur la question du logement par exemple, où est-ce qu'on réside? Moi je fais ma thèse à Bordeaux, je fais ma thèse aussi à Lausanne, je suis en co-tutelle, mon terrain est en Turquie, ma compagne travaille à Rouen où j'habite. Et donc ça pose aussi un certain nombre de problèmes pour arriver à mener une vie de laboratoire d'abord équitable entre les deux sites, mais même une vie de laboratoire tout court. Donc je vais pas plus loin, on pourrait éventuellement discuter après, mais toutes ces conditions-là affectent la recherche d'une manière ou d'une autre. Sur la question, évidemment, des financements, on connaît tous au sein des laboratoires, et malheureusement, une sorte de hiérarchie qui s'installe entre ceux qui sont financés, ceux qui ont une cifre, ceux qui ont une bourse, puis ceux qui n'ont pas de financement du tout, et les problèmes que ça pose. Et puis ensuite, disons, les perspectives que ça induit en termes, qu'on a évoqué aussi, donc j'y reviens pas, d'envahissement du privé par le professionnel. Donc je conclue en quelques mots. Donc j'espère que avec ces quelques réflexions qui sont encore un peu décousues dans la mesure où c'est une première formalisation d'un retour réflexif que j'aimerais inclure dans la thèse, que j'ai réussi quand même à indiquer quelques aspects. Il me semble que cette préoccupation dans les questionnements réflexifs et méthodologiques gagnerait à être valorisée parce qu'elle est trop peu défrichée, hormis dans les remerciements d'introduction. Et donc il faudra surmonter le malaise, la posture de retrait, de distance qui est propre au monde académique pour essayer d'aller plus loin. Je voudrais terminer en concluant sur un article que j'utilise énormément dans ma thèse, mais on va laisser ça de côté, de Douglas McAdam, qui concerne les conséquences biographiques de l'engagement politique. Et je pense qu'il faudrait arriver en fait à questionner les causes et les conséquences biographiques de l'engagement dans une recherche et dans la recherche. Voilà, je vous remercie.
Je vais aller, oui. Donc c'est une question remarque pour Pascal Barbier, Éric Martel, Paris Sud. Écoutez, là, ce que vous avez parlé par rapport aux quatre cadres renforcement, apaisement, recadrage, c'est quelque chose que j'ai ressenti quand j'avais 27-28 ans, sauf que c'était pas du tout dans le milieu de la recherche, c'était dans le milieu du cinéma. Et est-ce que ça ne pose pas le cadre, en fait, de tout ce qui est du fonctionnement d'une profession? Quand je parle de profession, c'est la logique professionnelle, profession de médecin, profession de cinéma, d'art d'artiste et autres.
Je réponds rapidement, complètement. C'était d'ailleurs une des idées qu'on pouvait avoir avec Bernard, que de se dire que ce schéma s'appliquait probablement à d'autres activités, celle-ci ayant simplement la particularité d'exacerber certains points, notamment la fusion entre sphère privée et sphère professionnelle spatialement. On peut travailler chez soi. Et puis la particularité aussi, c'est la question que Bernard pose souvent et qu'on peut se poser ici tous ensemble, et que Guillaume vient de soulever. Étant donné le peu de chances d'obtenir quoi que ce soit, comment expliquer tel engagement dont témoignent la plupart des jeunes chercheurs? C'est une énigme profonde à laquelle on doit réfléchir. Bernard y réfléchit à partir de cette notion de grid institution, c'est-à-dire quelque chose qui aspire. Il y a des tas de choses. C'est tellement étonnant. C'est probablement parce que, contrairement à ce qui se passe en Allemagne, le statut de chercheur ou de docteur a certainement toujours quelque chose d'enviable de l'intérieur, peut-être pas de l'extérieur. Mais c'est un schéma, en tout cas, qui peut s'appliquer probablement à beaucoup de professions, notamment des professions intellectuelles supérieures où on peut travailler chez soi et où il y a un idéal d'investissement professionnel extrêmement fort. Oui, tout à fait.
Rémunérateur qui peut être moindre qu'un certain nombre de professions, et donc par exemple dans la problématique articulation vie professionnelle, vie privée, des externalisations plus compliquées parce que dans une période de précarité, de salaire relativement limité, etc., que l'on ne retrouve pas par exemple en médecine. Bien que en médecine, lorsqu'on est en stagiaire, qu'on fait l'internship dans un hôpital, c'est pas nécessairement, je ne sais pas ici en France combien c'est rémunéré. Mais il y a un côté comme ça de précarité ou possiblement matériel. Tout dépend évidemment du patrimoine familial alors.